France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La croissance à Rome.
J'ai choisi de servir Rome. Rome qui a choisi le progrès, les ponts, les aqueducs, les routes, la libre circulation des marchandises et des hommes. Et, pour le bien de tous, un monde civilisé.
Rome, à la fin de la République et au début de l'Empire, n'est-il pas un monde assez vaste et assez ouvert pour que s'y déploie une croissance ? Beaucoup d'historiens traditionnellement refusent le mot et l'idée. La logique romaine inclinerait à l'autarcie plus qu'à l'échange. On connaît le refrain. Les Romains sont de bons élèves, observateurs consciencieux des Grecs et des anciens empires et des Étrusques, rarement des novateurs. Et ils mobilisent peu les sources d'énergie disponibles puisqu'ils ont des esclaves pour faire tous les travaux. Mais au moment que nous allons observer, et qui aurait pu être celui d'un décollage, l'époque tardo-républicaine, comme on dit, et le Haut Empire, la démographie est en hausse, l'agriculture marchande et spéculative se développe, le commerce s'étend, et si on réussissait à calculer l'évolution du PIB romain, on verrait peut-être réunies les conditions de la croissance. Jean-Pierre Brun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le dernier élu qui ait fait sa leçon inaugurale au Collège de France, cette superbe institution où vous avez des moyens de recherche et où vous tenez un cours accessible, comme l'émission que nous allons faire ensemble, à tous.
Oui, bien entendu, le but du Collège de France est justement de s'adresser à la totalité des citoyens. Et ça a pris une nouvelle dimension désormais, puisque nos cours sont filmés et disponibles sur Internet, ce qui nous donne une audience quasiment mondiale.
Je suis jaloux de vos podcasts. On peut donc consulter le site du Collège de France. Votre chaire est intitulée « Technique et économie de la Méditerranée antique ». Elle est fondée sur l'étude des sources écrites, mais vous êtes d'abord un archéologue en culotte courte. À 12-13 ans, vous avez commencé à fouiller. Et c'est ça qui vous mène maintenant, place Paul Painlevé, dans le 5e arrondissement de Paris.
En quelque sorte, car l'un des premiers sites que j'ai été amené à fouiller était justement une huilerie romaine. Et à partir de là, tout s'est déroulé, en quelque sorte, le fil normal de la recherche. Et j'ai travaillé sur la production.
Midi de la France, vous en parlez, Italie, Grèce, Égypte. On fait maintenant beaucoup de découvertes qui sont finalement dans le domaine qui nous intéresse, les techniques, l'économie. On va parler d'énergie, presque encourageante par leur banalité.
Ah, mais c'est ce que je recherche l'historien aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la réalité de la vie quotidienne et qu'est-ce qui est banal. On recherche moins ce qui est exceptionnel, même si on est content de le trouver.
Alors vous faites le pont entre archéologie et histoire, et puis entre archéologie et disciplines diverses. Quand on trouve un pin sylvestre dans une ferme, on va faire intervenir des scientifiques.
Oui, l'archéologie, ces dernières
années, c'est
20-25 dernières années, c'est beaucoup diversifié dans la mesure où on a des problématiques différentes de nos prédécesseurs et surtout, on a des méthodes qui nous permettent d'accéder à ces problématiques. Donc, on peut s'intéresser, par exemple, à l'évolution de la végétation avec diverses techniques, l'étude des pollens qui se conservent dans les sédiments, l'étude des charbons de bois et ainsi de suite, ce qui nous permet d'aborder des thématiques que les sources antiques ne nous permettaient pas de connaître.
Première série de leçons depuis votre intronisation au mois d'avril, consacrée à l'énergie à Rome. Et l'énergie à Rome, c'est d'abord l'énergie hydraulique, l'adduction d'eau, les Grecs connaissaient.
Oui, enfin, je vous reprends un peu, ce n'est pas d'abord l'énergie hydraulique.
Oui, il y a l'énergie éolienne, les voiles des bateaux.
L'énergie, c'est quand même d'abord le bois et le charbon de bois, c'est-à-dire tout ce qui sert à la combustion. C'est aussi l'énergie humaine, c'est l'énergie des animaux, c'est l'énergie éolienne qui est essentielle, et nous le verrons peut-être tout à l'heure, parce que c'est celle qui propulse les bateaux. Mais c'est aussi l'énergie hydraulique. Et c'est sur l'énergie hydraulique que les recherches archéologiques les plus récentes ont apporté du neuf.
Alors, il y a des aqueducs dans les villes importantes, dans les villes les plus petites, en Occident et jusqu'au Proche-Orient, jusqu'en Palestine, où œuvre un préfet, un procurateur bien connu, du nom de Ponce Pilate. Alors, voici une source essentielle que vous ne connaissez pas. On va vous faire découvrir, monsieur l'archéologue, des sources. C'est le Ponce Pilate, interprété par Jean Marais soi-même. Et le film est signé Gian Paolo Callegari.
Voici les rapports de la province de Samarie.
C'est une région défavorisée.
La terre est improductive, elle manque d'eau, c'est forcé.
Je suis heureux que la construction de l'aqueduc se poursuive.
Pilate, le Sanhédrin en conseil a délibéré. Et malheureusement, la majorité du vote est contre la construction de l'aqueduc.
Il ose défier mon autorité. Eh bien, moi, je refuse de suspendre les travaux.
Et tu ne veux pas renoncer à lever la taxe?
Non. Mes soldats arrêteront les caravanes qui apportent leur tribut au temple.
C'est une grande erreur.
La moitié seulement sera confisquée, elle suffira.
C'est un sacrilège.
Qui va en bénéficier sinon le peuple? Nicodème, de cette terre rendue fertile, ton peuple tirera de grands bénéfices.
Oh, il est plutôt sympathique, ce Jean Marais, pardon, ce Ponce Pilate réformateur.
Oui, bon, il fait partie de l'un de ces administrateurs qui, évidemment, ont été très décriés parce qu'il est pris dans un conflit religieux, mais de ces nombreux administrateurs qui développent ou qui aident au développement des infrastructures. Et par exemple, pour la Gaule, à l'heure actuelle, on connaît plus de 150 aqueducs et qui alimentent des villes. Et il est tout à fait évident que l'apport d'eau pure dans les villes a été un facteur d'amélioration de la vie quotidienne, non seulement pour les riches, mais aussi pour la totalité de la population, puisque cette eau était accessible grâce aux fontaines publiques.
Alors, quand on pense à aqueduc, on pense fontaine publique, on pense terme, amenitas, mais vous êtes un archéologue de l'utilitas. Et alors, quand vous pensez à aqueduc, vous pensez moulin.
Oui, parce que en plus de l'utilisation de l'eau pour la vie quotidienne, on a utilisé beaucoup plus qu'on ne l'a cru. L'eau conduite par des aqueducs, l'eau conduite par des canaux, l'eau évidemment des fleuves, pour faire tourner toutes sortes de moulins, principalement des moulins à grains, mais aussi, nous le verrons peut-être, des moulins, disons, qu'on pourrait qualifier d'industriels, c'est-à-dire qui ont pu écraser du minerai, de l'écorce de chêne ou actionner des hydrauliques.
Mais parlons d'abord des moulins tout simples. Marc Bloch, notre maître à tous, disait « Le moulin hydraulique, c'est une invention antique, mais c'est médiéval en ce sens que le moulin hydraulique n'a connu sa véritable expansion qu'au Moyen-Âge. »
Oui, effectivement, Marc Bloch, dans un article célèbre paru en 1935, a cette formule magnifique qui est magnifique mais fausse. Depuis, l'évolution de la discipline et la multiplication des recherches montrent que c'est surtout un effet de source, c'est-à-dire que Marc Bloch s'était laissé aveugler en quelque sorte par le fait qu'on a plus de sources concernant les moulins hydrauliques vers la fin de l'Antiquité et dans le Moyen-Âge que pour la période du Haut Empire, et donc penser qu'il y avait un développement qui était lié en quelque sorte à la crise de l'esclavage qu'on croyait déceler à partir des 3e et 4e siècles, et en quelque sorte on aurait compensé par le machinisme la diminution de la ressource en esclaves. Bon, en réalité, on n'a pas les sources écrites qui nous permettent d'écrire une telle histoire. Et aujourd'hui, la multiplication des recherches archéologiques, principalement en France d'ailleurs, grâce aux fouilles d'urgence et les fouilles préventives qui nous permettent d'avoir une vision beaucoup plus générale de la situation, la multiplication de ces recherches montre qu'on a utilisé des moulins hydrauliques très tôt et probablement de façon quasiment universelle.
Ah oui, c'est parce qu'il y a cette loi de 2001, la création de l'INRAP, l'Institut de prévention archéologique, des fouilles obligatoires chaque fois qu'on fait un aménagement, qu'on peut trouver des témoignages de la banalité de l'extension des techniques. On n'est plus dans le luxe et la recherche esthétique du centre des villes.
Tout à fait. La loi a été prise
n'importe où.
En application de la Convention de Malte que la France avait signée une dizaine d'années auparavant. Donc, on a mis du temps à y arriver. On était dans une situation de crise. Désormais, d'une part, grâce à la création de l'INRAP et puis plus récemment à l'ouverture à d'autres types d'opérateurs, y compris les collectivités territoriales, nous avons un maillage beaucoup plus fin du territoire et des recherches archéologiques qui se multiplient et qui, effectivement, portent non seulement sur les vestiges très spectaculaires, que peuvent être les temples, les nécropoles, comme on faisait avant, mais aussi sur des vestiges beaucoup moins spectaculaires, que peuvent être des fossés, où on a pu installer, par exemple, des moulins hydrauliques, ou des petites installations ou des petits habitats où habitaient les pauvres.
Revenons à nos moulins, Jean-Pierre Brun. Alors, il y a le moulin banal qu'on retrouve partout avec ce type de fouille. Et puis, il y a quand même le moulin exceptionnel. Visite avec Maurice Rouquette, non loin d'Arles de la plus grande concentration connue, à notre époque, de puissance mécanique du monde antique.
Les Romains avaient installé sur la pente sud des Alpilles près de Fontvieille, à 9 km d'Arles, cette usine de meunerie dont la force motrice était fournie par l'eau. Cette eau était amenée de la face sud des Alpilles par un aqueduc de 11 km de long et était reçue dans un grand réservoir d'où elle était répartie selon les deux trains principaux de l'usine. L'eau, en effet, descendait le long d'une pente de 17 mètres de haut, le long de 8 chutes, le long de 8 biefs, où à chaque escalier, elle faisait mouvoir une roue à aube qui entraînait les moulins dans les chambres de meunerie. L'usine, verticalement, était divisée donc en deux grandes séries de chutes, correspondant chacune à deux séries de chambres de meunerie, tandis qu'un escalier central, monumental, partant du seuil inférieur, permettait de desservir l'établissement industriel en entier, d'amener le grain et de remporter les céréales.
Voilà ce que Rouquette disait à l'ORTF, à la haute époque de 1961.
Oui, Jean-Maurice Rouquette, qui était à l'époque conservateur du musée d'Arles, fait une description très précise de l'installation. Ce qu'il ne dit pas, parce qu'à l'époque on ne le savait pas, c'est que la datation de cet ensemble est beaucoup plus ancienne que ce qu'on le pensait jusqu'alors. Les fouilles, les dégagements du moulin de Barbegal ont été faits par Fernand Benoît en 1937-1939. Et Benoît avait daté l'installation du IVe siècle. Alors ça collait bien avec les théories de Marc Bloch, puisqu'on voyait donc se développer le machinisme au moment où les esclaves, en quelque sorte, le système esclavagiste entrait en crise. Mais les fouilles récentes faites à partir de 1986 par Philippe Levaux du Centre Camille Julien du CNRS ont montré que l'installation est construite au tout début du IIe siècle, qu'elle fonctionne pendant tout le IIe siècle, le IIIe siècle, et qu'elle cesse au IVe siècle.
Donc elle entre parfaitement dans notre période, fin de la République, et haut empire. On entend le mot industriel, établissement, usine, prononcé par Jean-Maurice Rouquette. Ça appartenait à qui, cette usine, entre guillemets, à un grand capitaliste de la terre qui pouvait fournir des sommes, des quantités considérables de farine à Arles. Il y avait des villes, des exploitations agricoles marchandes et spéculatives.
Oui, tout à fait. À côté, il y a une villa relativement importante. Mais ce que l'archéologie ne nous dit pas, et ne peut pas nous le dire si on ne trouve pas de texte ou d'inscription, c'est à qui appartenait et comment fonctionnait, disons, cette usine. Il est vraisemblable que l'eau appartenant à la ville d'Arles, à la cité d'Arles, qui devait l'avoir mis en concession, il est vraisemblable qu'une telle usine qui s'est faite avec l'accord des autorités publiques devait être gérée par une société où plusieurs bailleurs de fonds se sont associés, peut-être des propriétaires fonciers voisins, mais on n'en a pas la certitude. Pour l'instant, on reste dans le domaine des hypothèses et tant qu'on ne trouvera pas d'inscription, on ne pourra pas répondre précisément à cette question.
Cessons de parler d'eau. Une de vos grandes spécialités, c'est le vin. Je ne veux pas dire que le vin soit une source d'énergie, mais on parlait des villets, des grandes fermes d'exploitation marchande et spéculative. On connaît maintenant beaucoup de domaines viticoles. Il y en a un qui a été exploré sur le fleuve Hérault, là, entre Agde et l'Odève, à Vareilles. Il y avait peut-être 100, 200, 300 hectares de vignes.
Oui, alors là, nous sommes dans une agriculture spéculative qui se développe principalement dans la deuxième moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ et au 1er siècle après Jésus-Christ. De très grands domaines se constituent, plantent des superficies très importantes de vignes. Vous avez cité le cas de Vareilles du côté de Béziers. On pourrait citer le cas d'Aspirant juste à côté. Moi-même, j'ai fouillé plusieurs très grands domaines, dont un à Riance dans le département du Var, où il n'y avait que 250 cuves de vinification. Mais ça vous donne une idée de l'ampleur de ces installations. Et on le voit très bien, à la fois aux installations et à l'exportation de ces produits, car cette production de vin s'accompagne d'une production d'amphores, c'est-à-dire de bouteilles de céramique qui permettait d'exporter ce vin dans l'ensemble de la Méditerranée, voire au-delà.
Deuxième partie de l'émission tout à l'heure, les échanges, vous l'avez dit, Jean-Pierre Brun, nouveau professeur au Collège de France. Mais d'abord un moment de pause, si vous voulez bien. Amenitas. Et puisqu'on parlait boisson, voici une invention reconstituée par deux archéologues incomparables, Pierre Dac et Francis Blanche, une invention dans le domaine qui est le vôtre.
Dans notre série Civilisation romaine,
veuillez écouter Néron, inventeur du punch au rhum.
C'était en 64 avant Jésus-Christ. L'empereur Néron, étendu sur un lit dans son palais du Coliséeum, discutait en latin avec l'empoisonneuse Locuste.
Oh Jupiter de Jupiter, de tonnerre de Jupiter.
Qu'y a-t-il, impérateur de mon cœur?
Il y a que je m'empoisonne.
Ah, pour une fois, ce n'est pas moi.
Je veux dire que je m'ennuie.
Oh, tu deviens exigeant, Néron. À présent, on mettrait le feu aux quatre coins de la ville, que ça t'amuserait à peine.
Oh, tiens, 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 mais c'est pas une mauvaise idée. Mes amis, Rome est un nid à punaises. Faites-moi brûler tout ça. Arrosez-moi le tout de pétrole. Je veux un punch énorme comme on n'en a jamais vu. Allez, je brûle d'impatience.
Rome tout entière brûlait comme une torche.
Et là-haut, sur la terrasse de son palais, Néron observait le spectacle.
Bravo! Ah, le beau punch!
Ça m'inspire, donnez-moi ma lyre.
Au lever du jour, la ville éternelle n'était plus que ce triste assemblage de ruines romaines que tous les touristes connaissent bien.
Mais l'humanité y avait gagné cette invention grandiose, œuvre d'un précurseur génial, le punch au rhum.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Production de vin notamment, échange et croissance à Rome avec Jean-Pierre Brun qui vient d'être élu à la chaire technique de la Méditerranée antique et de prononcer sa leçon inaugurale. On a entendu que ces sujets, notamment le vin, et Néron inspirait Pierre Dac, Francis Blanche, Haendel. C'était un bref extrait d'Agrippina. Je ne cite pas de nouveau. Poppéa, selon Pierrick Sorin au Châtelet, jusqu'au début du mois de juin 2012, où on voit Sénèque baigné dans son sang pendant que coule à flot le vin. Alors on en était, Jean-Pierre Brun, au vin. Vous nous parliez de sa production. Maintenant, les échanges, les amphores ont été cités il y a un instant, il faut qu'on parle des échanges.
Au 1er siècle avant Jésus-Christ, le vin a une importance économique considérable. L'Italie est le plus gros exportateur au monde. Et cette richesse, les Romains l'acheminent jusqu'aux frontières de l'Empire, sur les plus grands marchés. Le vin y est le plus souvent échangé contre de la main-d'œuvre. À l'époque, une amphore vaut un esclave. Deux siècles plus tard, l'Empire s'est étendu. Il a pratiquement doublé et la situation s'est inversée. L'Italie n'est plus exportatrice, mais importatrice. Et pour satisfaire leur consommation, les Romains vont planter des vignobles aux quatre coins de l'Empire. En provenance d'Hispanie, de Gaule, de Grèce et même de Tunisie, 450 000 amphores sont débarquées chaque mois au port de Rome. Et pour acheminer cet or rouge, le meilleur moyen de transport à l'époque, c'est le bateau. Malgré les naufrages, le bateau reste beaucoup plus sûr, beaucoup plus pratique et économique que le transport par route. Un navire peut contenir 6000 amphores de 30 litres. Une cargaison représente au total 180 000 litres de vin.
Mac Lesguy dans E égale M6 sur la chaîne du même nom. Vous êtes d'accord, Jean-Pierre Brun?
À peu près, enfin, c'est assez bien résumé. Les recherches en cours, notamment grâce à l'archéologie sous-marine, ont prouvé effectivement un développement très important du commerce, notamment du vin, à partir de la fin de l'époque républicaine. Alors, il y a le premier mouvement qui est lié au commerce vers l'Espagne et la Gaule. Vous savez que les Gaulois sont très demandeurs de vin et, à cette époque-là, exporter du vin en Gaule, c'est de l'or pour les Romains. On a beaucoup de bateaux qui en témoignent. Hein. Et par la suite, lorsque la Gaule est conquise et que les aristocrates gaulois ne peuvent plus utiliser le vin pour assurer leur domination politique, effectivement, on voit se répandre et se développer une viticulture dans l'ensemble de la Gaule qui sera exportatrice vers Rome et vers le reste de la Méditerranée. On peut suivre assez facilement désormais ce trafic grâce au comptage des épaves. À l'heure actuelle, on connaît 1646 épaves dans l'ensemble de la Méditerranée avant 1500, et on voit bien une progression très importante du commerce, en grande partie marquée par les épaves à amphores au 1er siècle avant Jésus-Christ et au 1er siècle après Jésus-Christ.
Mais vous me parlez commerce maritime dans l'extrait de E égale M6, il était dit que le commerce terrestre était nettement plus coûteux.
Ah, bien sûr, le commerce terrestre est beaucoup plus coûteux, mais il faut imaginer un ensemble beaucoup plus organisé. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le commerce maritime, qui est d'ailleurs de plusieurs types. On a le commerce hauturier, avec des gros conteneurs, des gros porteurs.
Pardon
qui,
des portent gros conteneurs.
Et des gros porteurs, c'est-à-dire il y a des bateaux-citernes, parfois, hein, qui font le commerce à grande distance, par exemple entre Narbonne et Ostie, si on veut. Il y a le cabotage, il y a, il ne faut pas l'oublier, c'est très important, tout le commerce fluvial qui remonte les fleuves et qui les descend. Et puis, un dernier segment qui est le commerce terrestre, beaucoup plus coûteux, mais quand même nettement amélioré par l'infrastructure routière qui se développe et qui se diversifie au cours de l'Empire.
Avec cette technique, puisque vous enseignez les techniques de l'Antiquité au Collège de France, le mur enterré là, dans une tranchée et qui est fait de superpositions, de couches différentes.
Voilà, il ne faut pas croire que les Romains inventent le réseau routier en Gaule. Lorsqu'ils arrivent en Gaule, et on le voit bien avec les conquêtes de César, il existe déjà des pistes et un réseau routier, mais ils le stabilisent, ils font des ouvrages d'art et ils stabilisent surtout la bande roulante et on a ainsi des routes qui sont dures et qui permettent aux chariots d'être transportés de façon beaucoup plus régulière et à un coût moindre.
Les Romains, c'est eux qui ont inventé en Occident les ponts ?
Ce sont eux qui les systématisent surtout, qui les construisent en pierre, mais non seulement en pierre, mais aussi en bois, et qui les multiplient.
Et au bout des voies, les quais, les ports, les moyens et les très grands, Ostie, à l'embouchure du Tibre, non loin de Rome, c'est pas rien, le port d'Ostie, c'est plusieurs bassins successifs, non ?
Le port d'Ostie, c'est à la fois la vieille ville d'Ostie, le nouveau port construit par Claude, et ensuite le port créé par Trajan, donc tout un ensemble de ports connectés par des canaux et connectés à la ville de Rome par le Tibre.
Alors, comme sur ces sujets économiques et techniques, souvent manquent les sources d'époque, voici, pour vous, un texte de l'écrivain François Fontaine en 1962.
Trois hommes sortirent d'un baraquement administratif. L'un d'eux avait un baudrier de cuir et des insignes métalliques.
Police du port, d'où venez-vous ?
Nous venons de Séleucie d'Antioche. Il faut excuser le capitaine Kératos qui ne parle pas latin. C'est son premier voyage à Rome.
Nous avons ici des interprètes.
Je suis l'armateur et je peux traduire.
Non, vous devez faire appel à un interprète inscrit à la corporation. Il vous faut aussi un pilote du port. Le voilà. Vous allez embarquer ici même un agent de l'immigration qui relèvera vos identités et un agent de la douane qui plombera la marchandise avant le contrôle.
Mais il y a deux jours, nous avons déjà été visités à Pouzol.
Qu'avez-vous débarqué à Pouzol ?
Du bois du Liban, du cuivre de Chypre, 1000 amphores d'huile de Grèce, du blé d'Égypte.
Vous n'avez pas dû payer beaucoup de droits.
Hein ? Non, en effet, vous êtes assez libéraux pour ce dont vous avez besoin. Ici, je vais décharger quelques petites babioles.
Oui, je vois. Des babioles qui vont coûter le maximum.
Combien ?
7% sur les soieries, les parfums, les tapis, les ivoires. 8% sur le verre, les bijoux. Et le reste, 5%.
Il aurait aussi bien pu dire, ici, on n'apprécie pas les Grecs et les Syriens, mais il lui fallait vivre avec ces gens-là qui représentaient 80% des navigants et du personnel portuaire.
Il y a quelques leçons à tirer pour notre époque, qui est toujours celle de la fin de la République et du Haut Empire. Spécialisation régionale. Haut degré de protection ?
Disons qu'il n'y a pas véritablement un haut degré de protection, mais l'une des façons pour l'Empire de lever des impôts, c'est effectivement taxer les mouvements commerciaux. Et donc, on a des douanes intérieures dans l'Empire qui permettent de lever des impôts.
Essayez de nous éclaircir sur un point que vous n'avez pas encore abordé. Vous avez parlé du nombre des amphores, du comptage, donc de la circulation maritime que l'on peut faire à partir de cette base-là. Mais comment connaît-on, comment compte-t-on les bateaux à Arles? Il y a une grande exposition actuellement au Louvre sur les fouilles du Rhône. On cherche les épaves dans le dépotoir urbain du fleuve.
Oui, ben là, il y a eu donc des fouilles à un endroit où il y avait beaucoup de céramique. Et dessous, on a trouvé une barge qui charriait des pierres et qui donc faisait ce trafic fluvial dont nous avons parlé, qui est tout à fait essentiel à la vie économique de l'Empire.
Souvenez-vous, là, je vous parle d'un port important, Arles, de votre jeunesse. Je disais que vous aviez commencé l'archéologie à 12-13 ans. Vous étiez un peu plus âgé en 1987, dans un port de moindre dimension, à Toulon. Dernière archive pour vous, Jean-Pierre Brun.
Cette gravure moderne représente le port antique de Toulon à l'époque de Télomarsus. Les deux barques de pêche des Aurélias romaines ont été sabordées et remplies de pierres pour servir aux amarrages, comme en témoignent des pieux coupés. Cette découverte donne un peu plus d'importance au port antique de Toulon, d'où l'on exportait vers Rome, jusqu'au IIIe siècle, des vins gaulois et varois. Parfaitement conservés sous une couche de terre et d'eau, les embarcations sont pratiquement intactes et offrent un témoignage rare de la construction nautique romaine. Première conclusion, il y a 5 ou 6 essences de bois utilisées, notamment du pin sylvestre. Reste pour les archéologues et les scientifiques à sauver ces vestiges et les traiter pour conservation.
Voilà, c'était vous qui étiez à la tête de cette mission.
Oui, tout à fait.
87.
C'est une fouille que je faisais avec mon ami Michel Pascalini et le Centre archéologique du Var. Nous avions trouvé, 5 bateaux, dont 3 bateaux de commerce et 2 petits bateaux qui avaient servi à construire un môle. Mais l'intérêt de la fouille de Télomarsus, c'est de montrer comment se développe une toute petite ville, qui n'est pas une ville qui a un support politique comme Arles, par exemple. C'est une ville qui se développe à partir des Flaviens, c'est-à-dire du dernier quart du 1er siècle de notre ère, qui connaît une expansion importante au 2e siècle et au 3e siècle, et qui ensuite entre en décadence à partir du 3e siècle.
Alors vous employez le mot décadence, je n'aurais pas osé. Ma dernière question, c'est celle-ci. Il y avait des moulins partout, il y a des ports qui progressent, petits, moyens et grands. Il y a des échanges qui se multiplient. Ça n'embraye pas. Il y a eu croissance, mais il n'y a pas eu décollage.
Il y a eu croissance, très, probablement très nettement, jusque dans le dernier tiers du 2e siècle après Jésus-Christ. Et là, on commence à rencontrer des difficultés. Alors, ces difficultés le sont de plusieurs ordres. D'une part, l'Empire romain doit faire face à une augmentation très importante des charges militaires dues à la pression des peuples barbares. Et pour donner une idée, on pense que les dépenses militaires font à peu près la moitié du budget de l'État. Il y a eu certainement aussi une crise démographique à ce moment-là, liée à la fameuse peste antonine qui commence en 166 après Jésus-Christ. Il est vraisemblable aussi qu'on atteint à ce moment-là les limites du développement qu'on avait vu au Haut Empire. Développement permis par la mise en culture de nouvelles terres, par l'introduction de nouvelles techniques agricoles.
Et puis, est-ce que les élites romaines ont compris que l'essor économique n'est possible que s'il y a un minimum de partage de la richesse ?
Certainement pas. Et je crois qu'effectivement, le défaut d'investissement dans l'enseignement et la recherche d'un côté leur a porté tort, et surtout l'affaiblissement du lien social qui fait que les élites s'enrichissent de plus en plus. On voit très bien comment la fortune des sénateurs qui passe, disons, d'environ 600 000 sesterces au 1er siècle avant Jésus-Christ à 6 à 9 millions de sesterces au 4e siècle pèse sur l'ensemble de la population. Et ces gens-là essayent de fuir l'impôt et le font reposer sur la totalité de la population.
Jean-Pierre Brun, professeur au Collège de France, nous explique que les blocages techniques, il y en a eu moins à Rome que de blocages sociaux. L'équipe de l'émission, Alain Duclos, Michel Bézikian, Jacques Sigal, Camille Poux, Jean Labillé, Frédéric Martin, Franck Olivard.
France Inter présente « Trop fort les mots », un livre d'Alain Rey. De avion à viande, en passant par surfer ou rhino féroce, un ouvrage qui explore la langue française à travers 50 mots choisis dans l'univers des jeunes lecteurs. Quel rapport entre la télévision et le téléphérique ? Pourquoi dit-on peau de vache ou faire un pied de nez ?
Que se passe-t-il si on confond très et trop? Trop fort les mots d'Alain Rey, une coédition France Inter.
Demain, à la marge de l'histoire, les cohabitations. À 14h18, Mathieu Vidard après la campagne électorale. Mais d'abord, il est un peu plus de 14h15, les informations avec Laetitia Gaillet.